L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
L'être humain vit dans un environnement constitué d'une diversité aux variétés naturelles des organismes vivants. Dans cette catégorie, nous retrouvons les plantes, les arbres, les forêts, les sols, les animaux, les eaux, les espèces aquatiques. Bref, le milieu naturel est tout ce qu'on retrouve dans l'environnement. Mais bien souvent, pour des raisons de survie, l'homme recourt à certaines activités qui perturbent la biodiversité. Alors, quelle importance de la biodiversité? Pourquoi faut-il préserver la biodiversité? On va en savoir plus avec notre invité Richard Tchombe. Et nous rappelons le numéro des contacts si vous êtes intéressé par ce sujet, vous voulez bien comprendre c'est quoi la biodiversité, pourquoi faut-il la préserver. Appelez 081 890 63 94. Voilà, dites-nous Richard Tchombe, nous avons dit que vous êtes directeur national et représentant du Wildlife Conservation Society en RDC. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre par les concepts biodiversité?
Écoutez, quand on parle de biodiversité, on veut tout simplement dire diversité biologique, diversité au niveau génétique, au niveau des espèces. Et donc, on retrouve cette même diversité dans d'autres domaines, dans le domaine social, dans le domaine politique et culturel. Donc, diversité. La diversité, en fait, assure la résilience de la société, que ce soit la société animale ou végétale ou une société purement humaine. Et souvent, quand on me pose cette question, je prends comme exemple ce qui se passe dans les sociétés humaines où vous avez des petits, des grands, des gros, des minces, des hommes, des femmes. Cette diversité rend la société solide. Imaginez qu'on soit dans une société où il n'y a que des hommes et des petits, tout simplement, des gros, tout simplement. Imaginez ce que serait cette société.
Donc, quand on parle de la biodiversité en ce qui concerne l'environnement, donc il s'agit de tout ce qui nous entoure. Donc, nous avons la faune, nous avons la flore, donc nous avons les plantes, les animaux, tout ça. Il faut faire avec tout ça.
Exactement. Donc, la diversité des espèces, des éléphants, même au niveau des éléphants, il y a des éléphants de savane, il y a des éléphants de forêt. Sur le plan morphologique, ils sont différents. Sur le plan génétique, ils sont différents. Sur le plan écologique, ils sont différents, ils ne se nourrissent pas de la même façon, etc. Et donc, c'est de tout cela dont il s'agit. Les éléphants d'Asie sont différents des éléphants d'Afrique, etc.
Et mais pourquoi l'être humain doit avoir besoin de toutes ces diversités-là et puis conserver ça? Pourquoi l'être humain? Parce que on l'a dit, pour des raisons de survie, il y a la chasse, il y a la pêche, il y a même on peut même parler par exemple de bois de chauffe, tout ça. Mais pourquoi c'est important pour l'être humain de veiller à tout ça de manière que cette biodiversité soit conservée?
Écoutez, la diversité biologique, ou tout simplement, si je parlais de forêts et d'animaux, ce serait plus simple, assure la subsistance de pas mal de populations locales. Il y a dans notre pays des populations qui ne vivent que de ça. Si je parle par exemple des Mbuti, imaginez qu'il n'y ait plus d'antilopes, de céphalophes dans la forêt de l'Ituri. Il y a des populations qui vont disparaître carrément. Imaginez qu'il n'y ait plus d'éléphants dans notre pays. Ça signifie quoi? Que les forêts ne pourront plus se régénérer, parce que les éléphants jouent un rôle écologique important, surtout les éléphants de forêt qui sont frugivores et qui parcourent des longs kilomètres. Et quand ils parcourent toutes ces distances, ils défaient qu'il y a des graines qui tombent, et donc la forêt se reconstitue. Et sans ces éléphants, tout cela ne serait pas possible. Et il y a d'autres animaux qui jouent un rôle tout aussi important. Et donc il y a une symbiose entre le monde animal et le monde humain. Ils nous fournissent la nourriture, et de notre part, on fait en sorte par nos activités qu'il n'y ait pas de surpopulation, parce qu'il n'est pas bon non plus qu'il y ait une surpopulation au niveau des animaux. Et donc on assure, les deux assurent un équilibre. Et donc, pour me résumer, la diversité biologique est importante, source de nourriture, mais aussi source d'inspiration, source de quiétude. c'est pas les parcs, les espaces verts sont importants. Malheureusement, dans notre pays, il y en a très peu. On sait quel est le rôle qu'ils jouent dans, disons, dans la santé mentale des individus. Quand on veut avoir une vie intérieure profonde, c'est dans un espace vert qu'on se retire.
Exactement, oui.
Et donc tout cela est important. Et puis, bon, il y a les cours d'eau. Sans cours d'eau, et donc il y a des services qu'on appelle environnementaux que le monde naturel nous rend, qui sont importants. Sans arbres, on n'aurait pas d'eau dans les nappes phréatiques. Donc tout cela fait finalement que il est important de préserver la biodiversité.
Et j'ai bien aimé, vous avez donné l'exemple, par exemple des éléphants, hein, lorsque la matière fécale, qui peuvent bien servir à quelque chose, donc c'est bien de le protéger. J'aimerais avoir un autre exemple comme ça, c'est-à-dire que des exemples aussi simples, hein, où les gens semblent négliger, alors que c'est important de protéger, par exemple, telle espèce végétale ou telle autre, parce que ça joue un rôle.
Oui, écoutez, il y a d'autres animaux qui défèquent aussi dans les cours d'eau,
oui,
et qui fertilisent les cours d'eau, et leur matière fécale sert de nourriture à certains autres animaux qui s'en nourrissent et qui, eux, nous nourrissent.
Et le cycle
exactement continue. Donc, il y a une chaîne alimentaire.
Il faut davantage sensibiliser la population par ça. Est-ce qu'au, par rapport à cela, est-ce qu'au niveau de Wild Conservation Society, vous faites aussi ces genres de travail?
La sensibilisation, oui, on le fait, bien que ce ne soit pas notre spécialité, parce que nous sous-contractons un autre partenaire qui, lui, a cette spécialité.
Oui.
Mais il est difficile d'être actif sur le terrain dans le domaine de la conservation sans en même temps faire de la sensibilisation. Chaque acte que vous posez, chaque parole que vous prononcez, c'est en fait de la sensibilisation. Oui, nous faisons de la sensibilisation parce que nous sommes implantés quand même, il faut le dire, dans 6 aires protégées de notre pays, de l'Équateur jusqu'au sud Kivu, en passant par la province orientale, le nord Kivu, et tout cela fait que finalement on est confronté à la nécessité de sensibiliser les populations locales, mais de manière, au sens strict du terme, nous entrons en partenariat avec d'autres qui le font pour notre compte.
Et dans les aires protégées dont vous venez de parler, qu'est-ce que vous faites exactement dans ces aires protégées? On peut savoir lequel.
Oui, il y a d'abord le parc national de la Salonga.
Oui.
Il y a la parc national de la Salonga qui est à l'Équateur. Il y a la réserve de faune à Okapi dans la province orientale. Il y a le parc national de Virunga dans le nord Kivu. Il y a le parc national de Kahuzi-Biega dans le sud Kivu. Il y a la réserve naturelle d'Itombwe dans le sud Kivu. Et nous travaillons aussi au Katanga, au nord de Kalemie, où nous travaillons avec l'ICCN pour créer une aire protégée. Donc nous facilitons la création d'une aire protégée. Et donc là, ce sont nos plus grands projets, mais on travaille aussi dans d'autres sites, par exemple en dehors des aires protégées, comme à Mambasa, où nous conduisons un projet RAID pour le compte du gouvernement congolais.
Et dans ces aires protégées, vous faites quoi? Vous demandez à la population de ne pas faire des activités dans ces réserves ou quoi?
Notre spécialité se résume en deux choses. C'est surtout les inventaires et le suivi de la population animale. En fait, par inventaire, nous entendons quoi? Nous aidons le gouvernement congolais, et plus spécifiquement l'Institut congolais pour la conservation de la nature, à déterminer l'abondance, la distribution et la densité des populations animales. Donc si en RDC, le gouvernement congolais, si l'ICCN est en mesure de dire combien d'éléphants il y a dans ce pays, combien d'okapis il y a, combien de bonobos il y a, c'est entre autres grâce à nous. Nous ne sommes pas seuls sur ce terrain-là, il y a d'autres partenaires, mais on est reconnu pour être l'expert dans ce domaine. Et il ne s'agit pas seulement d'inventorier, Mais il s'agit aussi de recenser, d'aller tous les à un timing, après un timing bien déterminé, tous les 5 ans, de revenir, de revisiter tout cela, de refaire le même travail, mais aussi d'assurer le suivi des tendances.
Voilà, quelle importance de la biodiversité. Nous en parlons avec Richard Tchombé, qui est directeur national et représentant du Wildlife Conservation Society en RDC. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Nous avons Patrick Kibali, qui nous appelle de Kindo dans le Manié, Maï Doudou Kadima, qui est en Bougimaï, dans la province du Kassai Oriental. Vous êtes également intéressé par ces sujets sur l'importance de la biodiversité, appelez au 081-890-6394 Tatima Pukele Standard pour prendre vos appels.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Patrick Kibali, vous nous appelez de Kindo dans les Maniema. Bonjour Patrick.
Bonjour Marcel et bonjour à l'invité.
On vous écoute, quelle est votre question?
Oui, j'ai des questions à poser à l'invité qui sont les suivantes.
Allez-y.
La première, quelle est l'utilité principale de la biodiversité pour l'homme? Oui. La deuxième, pour conserver la biodiversité.
Voilà, merci Patrick Kibali, depuis Kindo dans le Maniema, Bougimaï, dans le Kassai Oriental. On va accorder la parole à Doudou Kadima. Bonjour Doudou.
Comment vous allez, ma fête?
Je vais bien, merci. Quelle est votre question, Doudou Kadima?
Ok, j'ai d'abord une préoccupation et puis je vais poser ma question après. L'invité a dit qu'il ne faut pas tuer les animaux. Par exemple, les gens qui abattent les lions, les éléphants. Mais comment les gens peuvent vivre? Mais quand il avait créé l'homme, il avait ordonné de manger tout, manger les animaux, les fruits. Mais c'est comme si l'invité était en train d'interdire aux gens de ne pas abattre les animaux. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième est de savoir, il y a combien de types d'okapi? Merci.
Merci Doudou Kadima depuis Bougimaï dans le Kassai Oriental, à Bukavu dans le Sud Kivu. Nous avons en ligne Rugen Kilonda. Bonjour Rugen.
Bonjour Radio Kapi, bonjour à l'invité.
Oui, bonjour.
On vous écoute Rugen.
Ok, moi j'ai une seule petite question à poser à l'invité. Est-ce que l'invité peut avoir une idée sur les montants que la biodiversité de notre pays nous donne pendant une année avec le tourisme? J'ai vous remercie.
Merci Rigal Kilonza depuis Bukavu dans le Sud Kivu, à Kolwezi dans le Katanga. On va accorder la parole à Mani. Bonjour à Mani. Bonjour à Mani. On vous écoute, Amani. Vous êtes en ligne, allez-y. Vous avez une radio à côté de vous, Amani. Vous voulez bien la fermer carrément, comme ça on saura bien suivre votre question.
Ma question, c'est si, quel est l'importance de la biodiversité à notre vie quotidienne?
Et quelle est l'importance de la biodiversité dans notre vie quotidienne, c'est ça?
Oui.
Merci, Amani, depuis Kolwezi, dans la province du Katanga. Nous rappelons le numéro de contact pour des personnes qui sont également intéressées. Appelez au 081-890-6394. Voilà, Richard Tchombé, on vous retrouve pour répondre aux questions de nos auditeurs. D'abord, Patrick Kibali, qui a appelé des Kindou, qui a cherché à savoir comment faut-il préserver la biodiversité, et pourquoi c'est important de préserver la biodiversité.
Oui, il y a des questions auxquelles j'ai répondu dans l'introduction de cette émission, en particulier celles qui concernent l'utilité de la biodiversité. Mais je vais commencer par les questions qui n'ont pas encore été abordées, notamment notre ami qui dit que moi j'ai dit qu'il ne fallait pas tuer. Je n'ai pas parlé de cela, mais comme vous en parlez, on y va, va aborder le sujet. C'est vrai qu'il y a des populations qui ne vivent que de la faune sauvage. C'est vrai qu'il y a les Mbuti qui, par leur mode de vie, ont permis la préservation de notre biodiversité. Mais le problème, c'est que, un, les temps ont changé, la population est en croissance. Nous n'étions que 10 millions, je crois, lorsque la Belgique a repris le Congo des mains du roi Léopold II. Nous n'étions que 10 millions. Je crois qu'à l'indépendance, nous n'étions que 15 millions. Au début des années 70, nous étions 22 millions. Aujourd'hui, certains experts parlent d'une population avoisinant les 70 millions. Et d'autres même vont jusqu'à dire 80 millions. Ça signifie que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Et nous devons en tenir compte. Donc les besoins ont complètement changé. Il faut en tenir compte. Mais aussi, les modes d'utilisation des ressources ont changé. Les Mbuti, par exemple, ou les Efés utilisent des filets, ils utilisent des flèches, des arcs à flèches, etc. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent des grandes villes, qui vont passer des semaines, des mois en pleine forêt et qui poussent les Mbuti à passer de plus longues périodes en forêt, donc à chasser davantage que nécessaire. Et donc la chasse ne répond plus à des besoins de subsistance, elle répond à des besoins tout simplement commerciaux. Et ça, ce n'est pas durable. Donc si on veut préserver notre biodiversité, il faut tenir compte de sa durabilité. Je vais vous donner un autre exemple. Parlons des éléphants. Je ne sais pas si vous savez, la forêt de notre pays représente 62% de la surface forestière d'Afrique centrale. OK? Et un pays comme le Gabon, la forêt du Gabon ne représente que 13% de cette même surface. Avant les années 70, on trouvait en République démocratique du Congo 57% des populations d'éléphants de forêt. OK? Tandis qu'au Gabon, on ne trouvait que 18%. Mais aujourd'hui au Congo, on ne trouve que 20% de la population des éléphants de forêt. Oui. Nous avons 62% de la surface forestière, mais nous n'avons que 20% de la population d'éléphants. Et ça, ce n'est pas possible. Et le Gabon, qui n'a que 13% de la surface forestière, a aujourd'hui 52% de la population d'éléphants de forêt. Et donc, il s'est passé quelque chose. Et si nous continuons, je peux vous assurer que dans 10, 15 ou 20 ans, on n'aura plus d'éléphants du tout. Il y a déjà certains sites où les éléphants se comptent sur le bout des doigts. Si vous allez, par exemple, au parc national de Lupemba, il est difficile de voir des éléphants. On a fait des inventaires en 2008, on n'en a vu qu'une dizaine.
C'est que l'aide du braconnage à outrance, c'est un heure d'essai, on peut bien dire cela.
Exactement, le braconnage, c'est pour ça que je parlais de moyens, de méthodes d'utilisation de ces ressources. Le braconnage s'est tellement intensifié, parce que pour le cas des éléphants, il est clair qu'il y a une forte demande, qui vient surtout de l'Asie. Parce que les éléphants ne sont pas tués pour leur viande, ils sont essentiellement tués pour leur pointe, pour l'ivoire. Oui. Il y a une forte demande qui vient d'Asie. Il n'y a pas deux semaines, on a arrêté un ressortissant asiatique, enfin quelqu'un qui est originaire d'Asie, à l'aéroport, avec de l'ivoire. Et donc, voilà un peu, il faut qu'on fasse attention. Aujourd'hui, les okapis, vous savez qu'à l'époque coloniale, on avait des okapis du Nord Kivu jusqu'à Guadeloupe et à l'Équateur. Aujourd'hui, ça s'est rétréci et dans le Nord Kivu, on en trouve à peine. On en a vu il y a quelques années, c'était un événement d'ailleurs. Mais la plus forte concentration maintenant, c'est la forêt de l'Ituri, en particulier la réserve de faune à Okapi. Est-ce que vous savez combien on en trouve, combien il nous en reste? 2700.
Seulement. Et à propos d'Okapi, il y a Dudu à Kadima qui cherche à savoir s'il y a plusieurs types d'Okapi.
Non, il n'y a qu'une seule espèce d'Okapi. C'est un animal endémique. C'est l'un des derniers grands mammifères à être découvert au début du siècle passé. Et donc, non, il n'y a qu'une seule espèce d'okapi. Et c'est un animal endémique.
Et qu'on ne retrouve qu'en RDC.
Qu'en RDC, oui.
Voilà, il y a également une autre question. C'est par rapport au tourisme. Il y a un Rugen qui l'on a appelé de Bukavu, qui a dit, c'est bon, vous parlez de la biodiversité. Vous avez même parlé de certains arbres protégés qui sont sous les comptes de votre organisation. Mais il était curieux de savoir, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le tourisme? Qu'est-ce que cela se rapporte en RDC sur le plan touristique?
Je ne suis pas la voix autorisée parce que je ne gère pas le secteur touristique. C'est plutôt l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Moi, je fais autre chose, ou bien WCS fait autre chose, et donc je n'ai pas les statistiques officielles. Mais ce que je peux vous dire, c'est que du fait de la guerre, du fait il faut le reconnaître aussi, du fait des tracasseries aussi aux frontières, on reçoit très peu de touristes en RDC. Je sais que avant la guerre, à l'époque du président Mobutu, je crois, si je ne m'abuse, que le parc national des Virunga et celui de Kahuzi-Biega rapportaient quelque chose comme 2 millions de dollars, je crois, par an, je crois, si je me trompe. Mais on va vérifier tout cela. Je vous l'ai dit, je ne suis pas chargé des questions touristiques. Et donc, c'est de mémoire que je vous le dis. Mais je ne pense pas que je sois à côté de la plaque. Et donc, pour répondre en un mot à l'auditeur, je dirais tout simplement que notre pays gagne très peu sur le plan touristique. Mais ce n'est pas parce que on n'a pas de ressources. C'est tout simplement à cause de la conjoncture. Il y a eu plusieurs guerres, etc. Et donc, mais il y a aussi des problèmes institutionnels qu'il faut régler. Et puis, je vais vous dire une chose, mon cher ami. Il y a aussi une culture que nous n'avons pas. Le tourisme demande une certaine culture. On n'a pas la culture du tourisme en RDC. Et il faut que ça se développe. Ça se développe dans divers secteurs. L'hôtellerie, par exemple, aussi. Au niveau de la police des frontières, au niveau des services de sécurité. Donc il y a des choses qu'il faut faire à l'interne pour que tout cela marche.
Pour relancer le secteur du tourisme, on va pouvoir accueillir deux derniers auditeurs et puis on va découvrir des questions qui nous sont parvenues par SMS. Alphonse Boudrilli nous appelle d'Ingo Kolo, en province orientale. Alphonse Boudrilli, bonjour.
Bonjour Marcel Ngombo, je n'ai pas oublié Ogi Bendelo et Tati Mapuku, plus l'invité. J'ai des questions, mais avant de poser mes deux questions, je commence par un constat. Nous connaissons chez nous vraiment une déperdition importante et accélérée des animaux, par exemple les singes, la civette, les antilopes, les lions, les oiseaux, même les rats, vraiment c'est rare ces derniers. Et dans nos ruisseaux, nous n'avons que ces derniers petits crabes, les poissons, les vers de terre, les arbres, ces derniers sont aussi. Mais aussi les herbes pâturables, les cas des roseaux, il n'y en a pas. Ça fait de la place maintenant aux arbustes et aux arbisseaux qui forment des petites galeries chez nous ici. Maintenant, quand nous parlons des serpents, par exemple, les chats, les hiboux, les tortues et les autres animaux, vraiment, ils ne sont pas entrés en territoire d'Aru parce que tout le monde devient ennemi de ces animaux-là. Maintenant, concernant les champignons, par exemple, qui poussent chez nous ici naturellement, ces derniers, il n'y en a pas aussi. Maintenant, les manguiers, par exemple, les avocatiers et beaucoup d'autres arbres fruitiers sont déracinés, sont abattus par les planteurs de tabac parce que vous connaissez dans notre région, ici, c'est la culture du tabac qui bat record. Maintenant, je passe
la question, aux
questions. Oui. La première question. Chez nous, ici, il y a beaucoup de plantations d'eucalyptus. Je voudrais savoir si les eucalyptus ne peuvent pas être une cause de cette déperdition que nous connaissons. Mais en plus des eucalyptus, il y a l'utilisation abusive de produits et pesticides chimiques. Je voudrais savoir si ces deux produits ne sont pas à l'origine de tout cela. Maintenant, nous avons formé une structure que nous avons dénommée Union pour le projet de développement rural. Nous organisons la reforestation ici. Nous avons fait bientôt 9 ans.
Allez-y, Alphonse, allez-y rapidement. Il y a d'autres auditeurs qui attendent. Allez-y rapidement, oui.
Voilà. Oui, je termine, Marcel. Donc, je voulais demander à l'invité ce qu'il est le conseil qu'il peut nous prodiguer pour sauver davantage la situation.
Ouais, merci, Alphonse Boudrilli, de Pingo Kolo, en province orientale. Christian Tambili, vous êtes à Bounia, toujours dans la même province, la province orientale. Bonjour, Christian. Voilà, on fait signe que Christian n'est plus en ligne. Alors, on revient à notre invité, Richard Tchombé. Vous avez suivi cette préoccupation d'Alphonse Boudrilli, en tout cas cité, qui a fait presque un état des lieux, de ce que c'est pas du côté d'Ingokol. Il dit qu'il n'y a plus de singes, qu'il n'y a plus d'antilopes, il y a même de champignons qu'on ne trouve plus. Et là, je cherche à savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'eucalyptus dans le coin qu'il y a cette situation, ou parce qu'il y a l'agriculture abusive dans le coin?
Oui, c'est difficile comme ça, à partir du studio de Radio Capi, de poser un diagnostic et de vous dire c'est à cause de A et de B, il faut faire X, Y. Oui. Il faudrait pour cela que je fasse une visite de terrain, que j'ai des documents et tout, je vois l'historique, l'histoire de milieu, etc. Mais je ne vois pas le lien entre la perte de la faune et la plantation d'eucalyptus, je ne vois pas le lien. Mais une chose qui m'a quand même touché, ce qui dit que même les rats, il n'y a plus de rats, etc. Vous savez, quand une population se rabat sur les petits mammifères, ça veut dire que les autres, les grands mammifères, ont été complètement braconnés. Il n'y en a plus. Et donc, c'est un indice éloquent du niveau de braconnage. Mais je crois que, mon cher ami, il y a une cause généralisée dans notre pays, c'est la recrudescence du braconnage, tout simplement. C'est ça qui expliquerait qu'il n'y ait plus d'antilopes, etc. Et je l'ai dit tantôt, la population est en croissance, mais les moyens ne suivent pas.
Ils suivent pas, voilà.
Et donc, les gens se rabattent sur la faune sauvage. Il y a quelques tests pilotes d'introduction d'élevage d'espèces animales, mais à ma connaissance, ces expériences n'ont pas encore porté de résultats qui peuvent être reproduits à grande échelle. Mais c'est quand même une piste à explorer.
Voilà, André Toumba nous appelle de Lubumbashi dans le Katanga. André Toumba, bonjour.
Bonjour à l'invité, aussi à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute.
En fait, j'avais une petite préoccupation, deux préoccupations d'ailleurs. Tout à l'heure, là, l'invité a parlé du parc de l'air protégé qui doit être créé à cheval entre la province du Katanga et la province du Sud-Kivu. En fait, à ma connaissance, c'est un projet qui date de longtemps. Je voudrais savoir qu'est-ce qui fait traîner ce projet jusqu'à présent. Parce qu'il y a des rumeurs, en fait, au niveau de la province qui disent que c'est par l'absence du conseil consultatif pour le niveau de la province que ce projet traîne. Et puis j'avais une deuxième préoccupation, c'est en rapport avec la base camp de qui est en fait une réserve de chasse. Et c'était une réserve où il y avait beaucoup d'éléphants, mais ça fait un bout de temps que le cadastre minier a octroyé des...
Vous avez parlé de quelle réserve?
Pardon?
Vous avez parlé de quelle réserve?
La base camp de...
D'accord, je pense pas que l'invité connaît cette réserve. Allez-y.
Alors, dans la tête, en fait, c'est...
Il n'est plus en ligne, il me semble. Bon, on a compris l'essentiel de ces deux questions. L'invité va répondre tout à l'heure. On prend en tout cas cette fois-ci les derniers auditeurs. C'est Amour Hamzadi qui appelle de Kamina dans la province du Katanga. Amouri, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati ainsi qu'à notre invité du jour.
Voilà, allez-y, on vous écoute.
Ouais, je pense qu'il a parlé sur le problème de protéger aussi quoi les animaux. Je pense que les éléphants, ils ont quitté dans un des parcs de Kundeli où ils ont ravagé plus de 100 hectares de champs de manioc. Alors sur ce, la population s'est beaucoup lamentée, soit en disant que nous aussi nous commencerons donc à les tuer. En plus, ici chez nous dans le district du Olomami, vous constaterez que vers la période donc de la saison sèche, ils vont commencer à brûler en désordre, en cherchant quoi les animaux, en cherchant les choses pour se satisfaire durant cette période. Et quel conseil que notre invité peut-il donner à ces braconniers donc qui gardent les parcs ainsi qu'à des personnes qui brûlent en désordre donc disons quoi les brousses.
Voilà. Merci Amour Yamzadi depuis Kamina dans la province du Katanga. La Richard Tchombe, on revient à vous pour répondre à ces deux questions. Et d'abord de l'auditeur qui nous a appelé de Lubumbashi, hein, dans le Katanga, qui a parlé de vous avez parlé d'un projet de dîner protégé qui devait aller du Katanga dans le sud Kivu.
Oui, voilà, je connais les deux dossiers.
Oui.
Je commence par Amoury, qui a parlé du conflit homme-éléphant. Je voulais dire à Amoury, le rassurer, que nous avons été saisis. Les autorités provinciales nous ont contactés.
Oui.
Et une équipe d'experts de notre organisation va descendre sur les lieux pour faire un état des lieux, comme on dit, et donner... des conseils s'il le faut, mais des fois dans certains cas on a vu dans d'autres sites que souvent les populations s'installent dans des couloirs migratoires. Et les éléphants ont des couloirs qu'ils empruntent chaque saison quand ils passent d'un milieu à un autre. Et des fois les gens mettent des champs dans ces couloirs là où ils s'installent carrément dans ces couloirs. C'est un cas quasi généralisé, mais je rassure Amoury, nous avons été saisis, nous en avons parlé hier ou avant-hier au niveau de notre bureau, et donc il y a une équipe. Moi-même, je descendrai à Lubumbashi, je n'irai pas. Les experts vont aller jusque dans le haut Lomami, moi je vais rester à Lubumbashi pour discuter de la question soulevée par le premier auditeur, à savoir le futur parc de Ngamika, que d'autres appellent Kabobo, situé au nord de Kalemi, à cheval entre deux provinces, la province du Katanga et celle du Sud Kivu, à peu près 70 à 75% dans le Katanga et le reste dans le Sud Kivu. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, c'est vrai que la question du conseil consultatif est l'une des raisons, mais il y a une autre raison, c'est que le dossier est avancé quand même, parce qu'il est déjà au niveau du gouvernement provincial. Il a déjà été discuté une fois au gouvernement provincial. Il nous a été renvoyé parce qu'ils avaient besoin d'un complément d'information sur quelles questions? Sur les carrés miniers qui auraient été alloués dans cette forêt. Le gouvernement provincial voulait s'assurer qu'il n'y aurait pas de conflit. Et donc, ils nous ont demandé de vérifier l'exactitude de ces informations. Nous sommes en discussion avec le CAMI, parce qu'il est vrai qu'il y a quelques carrés qui ont été alloués. Ils ne sont pas en phase d'exploitation, ils sont encore en phase d'exploration. Donc ce sont ces deux questions, la question du conseil, comme vous l'avez dit, et la question des carrés miniers qui ont été alloués dans cette forêt. Mais je peux vous dire que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Et dans quelques semaines, je vais aller à Lubumbashi uniquement pour ce dossier.
Alors là, rapidement, on commence d'abord par ces questions qui nous sont parvenues par SMS. Il y a Salvador qui a écrit de Bounia. Il demande: la biodiversité a quelle influence sur notre vie? Rapidement.
Mais nous l'avons dit au début, quand nous avons parlé du rôle écologique que joue notamment, on a pris comme exemple les éléphants. Nous nous sommes penchés sur d'abord la question de la diversité. Oui. Avant de parler de l'aspect biologique, nous avons dit que la diversité en elle-même est un facteur de résilience. Nous avons donné l'exemple des sociétés humaines où il y a des gros, des petits, des grands, des noirs, des blancs. Le fait que nous soyons différents est un facteur de résistance face aux catastrophes. Mais maintenant, pour ce qui est de la diversité biologique. Elle-même, son importance, c'est tout simplement de rendre le milieu naturel résistant aux catastrophes, résistant aussi aux influences humaines. Et donc voilà. Je ne sais pas si votre question, moi je me demande même si votre question n'était pas de savoir quelle est l'importance de la faune. Parce que là, je parle de l'importance de la biodiversité, c'est différent.
Exactement. Oui. Et là, vous avez parlé de la faune, je crois que c'était également cette question de Sylvie Mafutamatadi et d'Igor Akin qui ont demandé simplement est-il important de protéger les animaux, et on va finir par là.
Oui, il est important de protéger les animaux, parce que les animaux contribuent à notre santé. Ils contribuent aussi à notre équilibre, mental, parce que, et là, j'ai donné l'exemple, je reprends encore cet exemple, l'exemple de des éléphants qui nous aident à reconstituer la forêt. Sans éléphants, je ne vois pas qui irait au milieu de la forêt équatoriale et se mettrait à planter.
À planter, exactement. Oui.
Exactement. Donc, les éléphants de forêt sont, à la différence des éléphants de savane, ils sont frugivores, donc ils mangent des arbres, ils mangent des fruits. Et ils parcourent des longs kilomètres. Et en parcourant ces kilomètres, ces distances, ils défèquent. En défèquant, il y a ces graines qui tombent et qui, en fait, permettent à la forêt de se reconstituer. Les éléphants permettent aussi de créer des clairières. Et ces clairières sont importantes pour les autres animaux. Et ce sont ces autres animaux dont nous nous nourrissons, tels que les céphalophes et d'autres encore.
Richard Tchombé, directeur national et représentant de WCS en RDC, WCS et Wildlife and Conservation Society. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'importance de la biodiversité. À la prochaine.
Merci.